Monsieur A se trouve à Chandelon car il a commis une infraction et il a été sanctionné par une peine de prison. Qu'a-t-il fait? Pendant combien de temps sera-t-il incarcéré? Nous ne le savons pas et nous ne le saurons pas. Car l'intérêt de présenter le jugement de Monsieur A réside ailleurs. Pourquoi a-t-il saisi la justice alors qu'il est en prison? Celui-ci, ayant provoqué un trouble à l'ordre dans l'établissement pénitentiaire où il purge sa peine, il a été placé en cellule forte pendant 3 jours. Pour Monsieur A, ce placement est disproportionné au regard de l'altercation. Aussi fait-il recours contre son placement auprès de la chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de justice. Cette autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative tranche sur recours les litiges survenant entre l'État et les particuliers. Elle a un rôle de contrôle de l'activité de l'administration. Ici, Monsieur A remet en cause une décision de l'administration pénitentiaire et s'appuie sur la loi de procédure administrative, LPA, pour justifier de son recours. Monsieur A peut faire un tel recours car la Suisse est un État de droit. Qu'est-ce qu'un État de droit? Il s'agit d'un État dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Dans cette conception, il existe une hiérarchie des normes qui limite le pouvoir de l'État. Au sommet de la hiérarchie des normes se trouvent les engagements internationaux, puis la Constitution, les lois et enfin les règlements. À la base de la pyramide figurent les décisions administratives ou les conventions entre personnes de droit privé. Cette ordonnance s'impose à tous. L'État, comme un particulier, ne peut méconnaître le principe de la légalité et ne bénéficie d'aucun privilège. Toute personne physique ou morale peut ainsi contester les décisions de la puissance publique en lui opposant les normes qu'elle a elle-même édictées. Dans ce cadre, le rôle des juridictions est primordial et leur indépendance est une nécessité incontournable. Parlons maintenant du jugement de Monsieur A. Le jugement de Monsieur A fait partie de ce qu'on appelle la jurisprudence. Cela correspond à tous les jugements rendus par les tribunaux genevois. Les juges peuvent s'y référer pour rendre leur jugement. La jurisprudence publiée sur le site internet du pouvoir judiciaire de Genève regroupe les décisions qui ont fait l'objet d'une démarche explicite de mise à disposition du public sur l'initiative du pouvoir judiciaire. Ces textes peuvent être caviardés, c'est-à-dire qu'on y supprime toutes les informations permettant d'identifier les parties afin de protéger la sphère privée et de garantir le droit à l'oubli, qui est ici le cas pour Monsieur A. La jurisprudence non publiée comprend toutes les décisions qui n'ont pas été mises explicitement à disposition du public. Celles-ci sont néanmoins accessibles auprès des juridictions concernées, sur demande et conformément aux dispositions de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, la LIPAD. À Genève, la loi en matière de protection des données personnelles est aussi la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, transparence de l'administration. En effet, les principes de la transparence de l'administration à l'égard des citoyens et la protection des données personnelles sont liés. C'est ainsi que le canton s'est d'abord doté d'une loi sur l'information du public et l'accès aux documents en 2001, puis elle fut modifiée en 2008 pour intégrer la problématique de la protection des données personnelles. Cette loi a pour objectif de garantir l'information relative aux activités des institutions et organismes publics, favoriser la libre formation de l'opinion et la participation publique, tout en protégeant les données personnelles. Qu'entend-on par « données personnelles » ? Selon l'article 4, chiffre A de la LIPAD, les données personnelles correspondent à toute information se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable. Nous avons précédemment mentionné le droit à l'oubli. De quoi s'agit-il? Le droit à l'oubli peut être défini comme le droit à ce qui est des informations sur son passé n'interfère pas avec sa vie actuelle. Il peut se décliner de deux façons. Premièrement, le droit à l'oubli dans le secteur public. Un citoyen peut demander à une administration de supprimer des informations à son sujet car il les considère injustifiées, inopportunes et portant atteinte à sa sphère privée. Deuxièmement, la problématique du droit à l'oubli sur Internet. Avec l'évolution de la technologie et Internet, il est dorénavant possible de conserver des traces numériques très longtemps, voire à jamais, d'informations à caractère personnel. Par exemple, une recherche via un moteur de recherche permet de faire rejaillir à la surface des informations sur un événement passé devenu obsolète concernant une personne. Depuis peu, des formulaires de déréférencement commencent à apparaître pour demander aux entreprises exploitant un moteur de recherche de supprimer les liens problématiques. Ce début de XXIe siècle est marqué par une grande activité de révision constitutionnelle avec la révision de la Constitution fédérale et la révision de la Constitution genevoise. La Constitution fédérale, actuellement en vigueur, a été approuvée en 1999. Elle a remplacé celle de 1874 qui avait été modifiée plus de 100 fois. Toutes ces révisions partielles avaient produit un assemblage disparate, inapproprié en ces débuts de XXIe siècle. D'où l'idée d'une révision qui mit plus de 30 ans à aboutir. Qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne Constitution ? Tout d'abord, elle donne une formulation plus actuelle aux dispositions qui existaient déjà. Ensuite, elle élimine certaines dispositions qui n'ont pas leur place dans un tel texte. Par exemple, l'ancien article 32 ter sur l'interdiction de l'absinthe. Mais elle intègre en revanche des normes légales comme la protection des données, article 13, pour leur donner plus de poids. À Genève, la Constitution de 1847, qui a été en vigueur jusqu'en 2012, fut modifiée également plus d'une centaine de fois. En 2008, le peuple genevois approuva le principe d'une révision globale de cette Constitution en confiant la rédaction d'un nouveau texte à une assemblée constituante. Après 4 ans de travaux, le texte est adopté en 2012 en votation populaire. Dans un état de droit, le contrôle de constitutionnalité est primordial. Les juridictions doivent être en mesure de confronter les différentes normes afin de juger de leur légalité, même s'il s'agit de règles ayant un rang élevé dans les hiérarchies des normes. Par exemple, une loi ou une convention internationale contraire à la Constitution doit être écartée par le juge et considérée comme non valide. L'état de droit suppose donc l'existence d'un contrôle de constitutionnalité destiné à assurer la conformité des lois de la Constitution. C'est dans cette optique que Genève s'est dotée d'une cour constitutionnelle en 2014. Cette chambre constitutionnelle contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur, traite les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale, et elle tranche les conflits de compétences entre autorités. Quels sont les points marquants quant à l'évolution de la justice ? Le bon fonctionnement de la justice est essentiel dans un état de droit. Or, à la fin des années 90, plusieurs points noirs étaient constatés. Le tribunal fédéral était surchargé, les procès civils et pénaux étaient menés selon les règles différentes d'un canton à l'autre, car les codes de procédure civile et pénale étaient du ressort des cantons depuis 1848. C'est pour pallier ce manque que le peuple suisse et les cantons adoptèrent en 2000 des bases constitutionnelles pour permettre une réforme de la justice. Cette réforme visait à améliorer la protection juridique, à maintenir le tribunal fédéral en état de fonctionnement et à établir les bases qui permettront l'unification du droit de la procédure au niveau national. L'organisation judiciaire, quant à elle, continue de relever des cantons. Concrètement, cela s'est traduit par un certain nombre de réalisations dont l'entrée en vigueur en 2011 des nouveaux codes de procédure civile et pénale fédérale et la nouvelle loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs. L'adoption à Genève d'une nouvelle loi sur l'organisation judiciaire, entrée en vigueur en 2011, créant un nouveau ministère public et de nouvelles juridictions comme le tribunal civil, le tribunal pénal et le tribunal administratif de première instance, ainsi qu'une grande cour de justice réunissant la seconde instance cantonale.